A'udhu min shaitan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Nous abordons maintenant le deuxième cours sur la question contemporaine. Et comme j'avais pu l'expliquer lors du premier cours, ce qui va être aujourd'hui notre thème, c'est les critiques. Mais les critiques au sens non pas de la critique négative telle qu'on l'utilise quand on utilise le verbe « je critique quelque chose » au sens négatif du terme, mais la critique au sens où l'on étudie un objet, ce qui est dit d'ailleurs dans la tradition philosophique, c'est l'examen d'un principe, d'un fait, d'une situation pour porter une appréciation sur ce fait-là qui peut être positive ou négative. Donc c'est la critique au sens de l'examen critique, comme aussi on parle d'esprit critique, celui qui peut, en face d'une situation, apprécier les choses, porter un jugement, parfois positif, parfois négatif, parfois les deux à la fois. Donc aujourd'hui, après avoir parlé la dernière fois, lors du dernier cours, de la critique de la spiritualité, aujourd'hui nous allons parler de la critique de l'arabe, et par extension, vous verrez pourquoi je le dis de cette façon-là, du musulman. En mettant en évidence aujourd'hui que il faut faire face à cette réalité de l'arabe. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que se fait aujourd'hui dans les sociétés occidentales? Et non pas simplement dans la société française, comme beaucoup de Français le pensent, eu égard à leur passé colonial, mais aujourd'hui, la réalité de l'arabe dans les aéroports des États-Unis, dans les réalités quotidiennes, où il y a une énorme confusion. L'arabe, c'est celui qui est sans doute musulman, et le musulman, souvent, est réduit à l'arabe, ce qui ne correspond absolument à rien. Nous sommes là dans l'ordre de la représentation, et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui faire avec vous, à savoir faire la critique d'une représentation. Mais encore une fois, ce n'est pas simplement la critique d'une représentation de l'autre, c'est-à-dire comment les autres nous voient comme arabes, mais parfois, comment l'arabe se voit lui-même. Comment l'arabe, finalement, a assimilé le regard qu'on porte sur lui tellement qu'il finit au moment même où il dit contester son statut, par confirmer la représentation qu'on lui a renvoyée. Il y a certains de nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont dans cette logique-là. Ils veulent justement montrer qu'ils ne correspondent pas à l'image de l'arabe, mais en contestant qu'ils ne correspondent pas à l'image, ils rentrent exactement dans la logique qu'on leur a imposée. Et c'est ça qui est important. Parfois, en contestant la conclusion d'une équation, on confirme les termes de l'équation. Et ce qu'il faudrait parfois, c'est contester les termes de l'équation et non pas forcément la conclusion. Donc j'aimerais avec vous faire ce petit exercice, essayer de voir aujourd'hui dans la conscience, dans la représentation populaire, occidentale, américaine, canadienne ou européenne, qu'est-ce que c'est? Qui est l'arabe? Alors l'arabe d'abord, la première des représentations, c'est l'étranger. L'étranger, c'est celui qui vient du sud, c'est l'étranger, c'est, comme on a pu me le dire, celui qui vient du bled, qui vient de là-bas. C'est pas celui qui vient de chez nous. D'accord. Et même d'ailleurs, on peut trouver parmi les Arabes des gens qui se traitent d'Arabes, qui ont assimilé cette idée que finalement t'es encore de là-bas. Et même quand ils vivent là-bas. D'ailleurs, c'est pas forcément un constat positif que de dire à un Arabe qu'il est Arabe dans un pays arabe. À tel point que la représentation a totalement perturbé nos perceptions de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'aliénation, j'y reviendrai. Donc c'est l'étranger. Par rapport à l'Occident, que ce soit en particulier par rapport à l'Europe, c'est l'ancien colonisé, c'est-à-dire celui qui était anciennement sous notre autorité, celui qui était anciennement sous l'autorité du pouvoir qui allait en fait le civiliser. Donc il y a cette idée de celui qui a une dimension inférieure. Mais ce n'est pas simplement dans les pays qui ont colonisé. Si vous écoutez la rhétorique qu'a utilisée juste après le 11 septembre et pendant les deux ans qui ont suivi Bush, vous apercevez qu'il y a l'idée qu'il y a une civilisation qui est en danger par des êtres qui manquent de civilisation. Alors on avait pensé dans un premier temps qu'il s'agissait effectivement de ceux qui étaient les terroristes, ou la guerre contre le terrorisme touchait une cible particulière. Mais en fait, à regarder les choses de plus près, la rhétorique est restée la même, sensiblement différente bien sûr, mais avec la même représentation au moment où il s'est agi d'intervenir en Irak. Une civilisation allait civiliser ceux qui n'avaient jamais connu la démocratie sous l'autorité d'un homme qui était un tyran, un arabe. Et donc ici, nous avons, de ce point de vue, une vraie représentation négative. Mais à tel point qu'implicitement, vous avez une série de questions qui sont posées. Est-ce que l'arabe est capable de vivre dans un espace démocratique? C'est la question implicite aussi qui est posée à tous les musulmans. Est-ce que l'islam peut, à un moment donné, permettre aux musulmans de vivre dans la démocratie? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette question, au fond? Est-ce que les Arabes peuvent connaître la démocratie? Ou est-ce que l'islam permet la démocratie? C'est que, implicitement, celui qui vous pose la question suppose et comprend que la démocratie, c'est le sommet de la civilisation. Est-ce que vous pouvez monter au sommet, vous qui êtes en bas de la montagne? Une question de fond pour nous, parce que si l'on veut déconstruire ces représentations, il faut savoir ce que cette représentation, comment elle s'inscrit en termes de valeurs et en termes de perception et en termes de projet aussi du vivre ensemble que nous pouvons avoir, en particulier pour nous, dans nos sociétés. Et donc, plus généralement, c'est les mêmes logiques que l'on peut trouver dans les discussions que nous avons sur les banlieues. Entendre un Français moyen, un Belge moyen, un Américain moyen se promenant tout proche d'une banlieue et dire « nous ne sommes plus chez nous ». Nous, c'est qui? C'est les Blancs. Eux, c'est qui? Les Arabes. Les Arabes qui ont colonisé la banlieue après qu'ils aient décolonisé leur propre pays. En l'occurrence, ici, une représentation dont on ne devra un jour ou l'autre garder la réalité en face. Dire que la société n'est pas raciste, c'est vrai. Dire qu'elle ne promeut pas des valeurs racistes, c'est vrai. Mais l'entretien de perception de ce type-là, géographique autant que culturel, c'est véritablement une bombe à retardement qui est porteuse de tous les racismes d'aujourd'hui et de demain. Donc il va bien falloir dire aux gens, regardez vos préjugés en face, plutôt que de nous rappeler simplement vos principes pour l'avenir. On ne fera pas l'avenir avec des principes que vous édictez intellectuellement, on fera l'avenir avec des représentations que vous déconstruirez dès maintenant, dès aujourd'hui. Déconstruire cette vision de l'arabe, de l'étranger, du blédard, de celui qui vit dans la banlieue, de celui qui est un ancien colonisé, qui n'est peut-être même pas capable de civilisation ou d'être tout simplement civilisé, à qui il faut tout apprendre, réapprendre cette quand nous sommes positifs par rapport à la représentation que l'on en a. Comment faire et comment réagir par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors encore une fois, il y a deux attitudes intellectuelles. Deux attitudes intellectuelles que nous trouvons, qui sont des réactions à cette image. Et là aussi, il faut en faire la critique. Les réactions que nous trouvons chez l'arabe ou chez le musulman. Alors encore une fois, je n'ai pas réduit l'arabe au musulman. Je parle de l'arabe, mais sensiblement dans le discours contemporain depuis ces dernières années, l'arabe s'est associé au musulman et le musulman à l'arabe. Dans trois caractéristiques. La première, c'est que le musulman, c'est l'étranger. On n'a pas encore acquis en Occident que l'islam faisait partie du paysage occidental. C'est pas une religion française, c'est pas une religion belge, c'est encore de l'extérieur. La preuve, le club des pays européens, c'est le club des pays chrétiens. Et non, c'est une erreur. Aujourd'hui, ça n'est pas une réalité. Des millions et des millions de citoyens sont aujourd'hui musulmans. Ils font partie de cette réalité, mais ça n'est pas acquis. De la même façon aujourd'hui, que même dans la rhétorique aux États-Unis qui parlent des musulmans, c'est eux, mais ça n'est pas eux parmi nous, c'est pas nous discutons avec nous-mêmes, c'est nous discutons avec les autres, discutons avec ceux qui viennent de l'étranger. C'est encore la réalité de l'étrangeté, de l'ancien civilisé ou encore de ceux dont on attend qu'ils se réforment. Il est absolument sidérant d'entendre aujourd'hui des gens, mode Bernard-Henri Lévy, dire « l'avenir du monde ». Ça n'est pas l'Occident qui dialogue avec l'islam, c'est les musulmans qui dialoguent avec eux-mêmes. En d'autres termes, l'Occident n'aurait pas de questions à se poser sur ce qu'il est et ce qu'il fait, mais c'est aux musulmans de discuter entre eux pour que les modérés l'emportent sur les radicaux. C'est une civilisation malade qui doit régler ses problèmes. Quant à l'autre, elle est suffisamment en bon état pour n'avoir qu'à gérer ses richesses. Cette vision du monde est une vision paternaliste, c'est une vision coloniale, c'est une vision arrogante. arrogante, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une vision qui regarde l'autre civilisation, qui lui dit « Bah, discutez, nous n'avons pas directement de problème avec nos propres valeurs ». Certes, non. Nous non plus, en tant que musulmans, nous n'avons pas de problème avec nos valeurs. La question n'est pas de savoir si nous avons des problèmes avec les valeurs. La question est de savoir si nous avons des problèmes avec leur application. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde, tous, musulmans comme occidentaux, et musulmans occidentaux, et occidentaux musulmans, et occidentaux juifs, et occidentaux chrétiens, et arabes chrétiens, et arabes juifs, et bien nous avons tous vraiment à nous poser la question de savoir les valeurs que nous proclamant quel est l'état de leur application dans nos sociétés respectives. Et là, nous avons du travail à faire, que chacun balaye devant sa porte, plutôt que de penser qu'il n'y a que la porte de l'autre qui devrait être balayée. Donc, de ce point de vue, nous avons à développer un rapport critique par rapport à ces questions-là. Mais, réactions que nous trouvons parmi les musulmans, elles sont de deux types. Intellectuellement, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons des Arabes, et des musulmans qui répondent exactement au portrait, incapables de discuter, ils rentrent dans le registre de l'agressivité. Pour montrer que je ne suis pas l'image que vous faites de moi, ben, j'entre dans la confrontation. Une confrontation qui est agressive, qui est une proposition également de rejet. Je rejette l'autre, je vous rejette avec tout ce que vous dites, et en même temps, l'insulte. Donc on a un registre aujourd'hui de gens qui n'élaborent pas une construction intellectuelle, qui n'élaborent pas un retour à eux-mêmes pour pouvoir répondre, mais qui sont dans le rejet, l'insulte et l'agressivité. C'est normal qu'on trouve ceci dans certaines banlieues. Il est normal qu'un jeune à qui on renvoie systématiquement le regard de l'arabe, du musulman, du laissé, du moins que rien, qui a besoin d'être civilisé, qui mérite presque de comprendre pourquoi on serait raciste à son égard. Il est absolument normal que celui qui a vécu dans cette exclusion-là n'ait pour seule arme que l'agressivité. Il est normal, même si il n'est pas acceptable qu'on reste sur cette logique-là. On ne peut pas accepter la violence, on ne peut pas accepter le rejet, on ne peut pas légitimer tout ce qui est fait au nom de l'affirmation identitaire des jeunes. On ne peut pas, mais ne pas accepter ne peut pas vouloir dire ne pas comprendre d'où ça vient. Si on ne donne pas les moyens à quelqu'un de se construire dans le calme, il vous frappera dans la violence. C'est ça. Une société qui devient juste. C'est celle qui fait que dans les banlieues, il est beaucoup plus naturel d'être raciste que dans les quartiers résidentiels. C'est pas parce que dans les quartiers résidentiels, on est plus ouvert et moins raciste, c'est qu'on est plus protégé. Un espace de non-sécurité produit du racisme, un espace sécurisé produit une ouverture intellectuelle artificielle parfois, loin des réalités. On est démocrate quand il n'y a même pas besoin de se battre pour la démocratie. On est contre le racisme quand on ne se bat pas contre les racistes. C'est facile, mais ça n'est pas l'avenir du monde. Et donc, en l'occurrence ici, reconnaître que cela apparaît dans les banlieues, apparaît pas simplement dans les banlieues, d'ailleurs chez beaucoup d'intellectuels, on voit de l'agressivité, du rejet, l'Occident. Cette attitude-là, elle n'est pas uniquement due à l'ignorance, elle peut être parfois due à des attitudes psychologiques, à des états psychologiques, il faut la refuser. Mais il faut savoir qu'elle est là. Puis alors, il y a l'autre attitude qui est l'attitude exactement opposée, la victimisation. Oh, ils n'aiment pas les Arabes. Ah, ils n'aiment pas l'islam. Ah, on se plaint de tout. Nous sommes les victimes de tous et de tous, de toutes et de tous. Nous sommes les victimes d'une société, c'est une société finalement raciste, et l'on entretient une pensée victimaire. On entretient une pensée de la plainte perpétuelle. Alors ça, nous sommes champions. Nous sommes champions de l'agressivité aveugle et champions de la plainte permanente. C'est une réalité aussi que l'arabe peut aussi assimiler cette espèce de victimisation, cette plainte qu'il ne nous aime pas, comme si finalement la question du racisme allait être résolue par savoir si on nous aime ou si on ne nous aime pas. Voilà la question. Je veux dire que la question d'un raciste, c'est pas de savoir s'il m'aime ou s'il ne m'aime pas. Le fait est qu'un raciste ne m'aime pas, mais qu'entre lui et moi, il y a la loi. Et qu'à partir de là, on va s'engager sur le vrai débat. Je ne demande pas, vous ne pouvez pas demander à ceux qui n'aiment pas les Arabes de vous aimer Arabes, parce qu'ils n'aiment pas les Arabes. Mais vous pouvez et devez exiger qu'ils respectent ce que vous êtes envers et contre son gré. Donc, de ce point de vue-là, nous avons véritablement à entrer dans un autre registre. Alors, je disais, la victimisation, la plainte, et puis alors, une chose également que nous faisons à merveille, c'est l'auto-exclusion. C'est-à-dire que, comprenez, nous sommes dans une lutte psychologique. Alors il y a deux façons. Quand on met une pression comme ceci, ce qui est en amont de l'islamophobie aujourd'hui en Europe, il y a une pression psychologique faire peur. Alors on fait peur aux gens. Alors évidemment, si dans la peur, vous ne comprenez pas, c'était notre cours de la dernière fois, la spiritualité, qu'il faut maîtriser sa peur et venir avec les principes, si on n'a pas compris que la réalité de notre engagement vis-à-vis de la de cette peur, c'est une spiritualité qui la maîtrise et qui vient avec des principes, et bien finalement on s'auto-exclut. Et ceux qui vous ont fait peur gagnent. S'ils vous poussent par la peur à vous auto-exclure de la société qui vous fait peur, ils ont gagné. C'est une guerre sans armes, mais qu'on gagne haut la main, facilement, si justement on se laisse aller à cette émotion de la peur. Eh bien, ici, le travail de la spiritualité est utile. C'est de savoir ne pas avoir peur de cela. Savoir réagir à l'émotion qui fait peur par le principe qui la casse. Qui casse cette peur, qui la brise. Donc ici, on a ces deux attitudes, rejet, signe de faiblesse, agressivité, et victimisation, signe de faiblesse, dilution, disparition, crainte. Ces deux attitudes intellectuelles existent, et aujourd'hui, la figure de l'arabe, c'est souvent ça. C'est celui qui, ou il s'énerve, ou il se dilue. Ou il critique, ou il se plaint. C'est-à-dire, ou il critique l'autre, ou il se plaint de lui, des autres vis-à-vis de lui. Je pense que de ce point de vue-là, ces attitudes-là sont les deux faces de la même pièce. C'est la même attitude, le même déficit de compréhension. Je pense que ce que nous avons comme attitude intellectuelle parmi les Arabes, c'est aussi, ou des musulmans, c'est aussi ce qu'il faut pouvoir dénoncer. Alors ça, ce sont les attitudes naturelles. Elles sont naturelles. Est-ce qu'on doit les accepter? Non. On doit savoir qu'elles existent, on doit savoir que par la force des choses, quand des gens ne savent pas maîtriser leurs émotions ou la représentation qu'on a d'eux-mêmes, dans l'ordre du racisme, il y a effectivement quelque chose qui est reconnaître les attitudes naturelles, les réactions naturelles. Et maintenant, faire la différence entre ce qui est naturel et qu'on peut changer, et ce qui n'est pas acceptable dans l'attitude intellectuelle et qu'il va falloir critiquer. Alors moi, ce que j'aimerais, juste avant de parvenir à la conclusion pour ouvrir les voies, de cette critique de l'arabe et du musulman pour que, inshallah, à l'avenir, nous ayons une autre attitude par rapport à ces questions-là, c'est de relever aujourd'hui que dans ce paysage, au-delà de ce naturel qu'on peut trouver dans les banlieues, qu'on peut trouver à l'université, qu'on peut trouver parmi les fonctionnaires, on peut trouver cela partout, eh bien, on a un certain nombre aujourd'hui qui jouent un jeu qui est extrêmement dangereux parmi les Arabes et parmi les musulmans. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans le paysage des interlocuteurs de la société qui nous entoure, parmi ces Arabes et parmi ces musulmans? Première des choses que nous trouvons, au-delà de ces attitudes naturelles, encore une fois, de la réaction agressive et de la victimisation, la première des choses que nous avons, c'est un certain nombre d'acteurs de la société dont on peut dire qu'ils ont totalement accepté la représentation qu'on se fait d'eux. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle proprement quelqu'un d'aliéné. Quelqu'un d'aliéné, c'est quelqu'un qui se regarde par la vision qu'on a de lui et qui l'accepte. Alors finalement, oui, je suis un arabe, je suis un étranger. Quand on lui dit, mais t'es chez toi, tu es français, mais il dit, pas tout à fait. Pas tout à fait. La seule fois qu'il se reconnaît français, c'est quand un joueur de football d'origine maghrébine peut mettre un but pour l'équipe de France. Ça, c'est un aliéné. C'est quelqu'un qui ne se perçoit que par le regard. Pourquoi? Parce que les Français ont admis qu'un Maghrébin qui jouait bien au football était vraiment français. Parce que les Britanniques ont admis la même chose. Parce que aux États-Unis, on admet que quelqu'un, celui qui a été la gloire du pays, puisse être véritablement des nôtres. Le sportif du siècle aux États-Unis s'appelle Mohamed Ali. Il a été reconnu comme celui qui a apporté. Pourquoi? Parce qu'il est une institution au sens de ce qu'il a apporté au sport là-bas. Et donc, aujourd'hui, il en est certains qui ont absolument admis ceci. D'ailleurs, les attitudes que nous avons parmi les Arabes et les musulmans sont parfois les mêmes attitudes que nous trouvions sous la colonisation. Des gens qui étaient sous la colonisation et qui écoutaient ce qu'on disait d'eux, puis ils répétaient. Ils étaient totalement en phase avec ce qu'on disait d'eux-mêmes. Aliénés jusqu'à leur propre façon de se penser eux-mêmes. Donc ils sont devenus, à leurs propres yeux, ce que les autres voyaient d'eux. Le deuxième type de personnes sont des gens qui ne sont pas tout à fait allés jusque-là, mais ce sont des collaborateurs. Des collaborateurs de cette propre image, c'est-à-dire qu'il en est aujourd'hui parmi les Arabes, et dans le registre aussi des références musulmanes, des gens qui sont totalement les collaborateurs intellectuels du propos courant. Ils n'essayent pas de questionner la perception. Ils veulent faire entendre, en l'occurrence ici, ils ont admis ceci. Alors, parfois c'est très sincère. Parfois, effectivement, vous avez des gens qui croient la perception dominante, qui l'assument et qui disent la même chose. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont effectivement dans une logique de collaboration intellectuelle, de collaboration de la perception, ils la portent eux-mêmes. Et ceux-ci sont d'autant plus dangereux, je dirais, pour le débat, dangereux, que finalement ils ont une caution parce qu'ils portent des noms d'arabes. Il s'appelle Ahmad, il s'appelle Ismaïl, il a un nom d'arabe. Et en même temps, il parle comme nous. C'est donc dire qu'on les connaît bien, puisqu'un arabe dit ce que nous disons d'eux. Puisqu'un musulman dit ce qu'on... Alors le registre se déplace aujourd'hui. Hier c'était l'arabe et aujourd'hui c'est le musulman. Et aujourd'hui on a des musulmans, hier on avait des arabes de service. Et aujourd'hui on a des musulmans de service. Ils disent exactement ce que le service attend d'eux. C'est-à-dire d'être des collaborateurs du propos courant. Et donc ici, il y a quelque chose qui peut être très malsain. Parce que pour certains, il y a effectivement le fait de se vendre carrément. C'est-à-dire qu'ils confondent l'ouverture avec l'autre, le fait de vendre tout ce qu'ils sont pour pouvoir participer à ce qui n'est pas un débat. Le danger des collaborateurs, c'est qu'ils font croire à leurs interlocuteurs qu'il y a dialogue. Mais en fait, il n'y a pas dialogue. Il y a juste un monologue interactif. Ils disent exactement la même chose que les autres et font semblant de parler en dialogue parce qu'ils ont des noms exotiques. Ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Et c'est un monologue, la tradition socratique disait, on disait de la tradition socratique, Socrate parle tout seul, mais il a besoin simplement de quelqu'un qui lui dit oui, non, bien sûr, Socrate. Et on appelle ça un monologue dialogué. Il parle tout seul, mais l'autre, il lui en renvoie la réponse. Simplement, il lui dit, il lui confirme. Eh bien, on a des Arabes qui sont les acteurs d'un monologue dialogué et qui déforment finalement la perception. Donc, on a des gens qui sont aliénés, sans forcément s'en rendre compte, et il y a des collaborateurs, c'est-à-dire qui se rendent bien compte de où est la situation. Et il y en a d'autres qui vont encore plus loin. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Et on en a aujourd'hui dans la scène française, dans la scène américaine, sur la scène européenne, on a ceux qui sont des opportunistes. C'est qu'ils ne sont pas simplement collaborateurs d'une pensée dominante, parce qu'à la limite, quand on est sous une domination, on a envie d'y participer à la domination, on a envie d'avoir le pouvoir, donc on collabore. Sous une occupation politique, il y a toujours eu de ceux qu'on appelait, avec un mot extrêmement négatif, les collabos. Il y a les collabos militaires et il y a les collabos intellectuels. Il y en a qui se vendent de cette façon-là. Et puis vous avez un troisième type, ce sont les opportunistes. Eux, ce n'est pas simplement qu'ils collaborent, c'est qu'ils ont envie de monter. Ils ont envie d'être visibles dans le paysage. Ce n'est pas simplement qu'ils ont envie d'être acceptés, ils ont envie de prendre un certain pouvoir. Et là, on les a vus avec un certain nombre de personnes. Sous la colonisation, on l'a même vu ici, en France, les Arabes qu'on utilisait justement pour montrer qu'ils étaient les gens qui légitimaient une certaine politique. On en a même vu dans les partis d'extrême droite, des opportunistes, à qui le parti d'extrême droite faisait jouer le rôle de légitimant et on leur promettait un poste, et qui jouaient à cela. Et on voit exactement la même chose aujourd'hui par rapport à l'islam. On voit aujourd'hui des gens qui sont très très opportunistes. Ils n'assument même pas le fait qu'ils n'ont ni étudié la religion, ni qu'ils la vivent dans la pratique. Ils sont à des années-lumière de n'importe quelle vie spirituelle ou de n'importe quelle connaissance. Mais l'opportunisme lié à la collaboration fait qu'ils sont devenus les nouveaux spécialistes de la religion. Et comme les a appelés assez justement d'ailleurs Vincent Jesser, il développe quelque chose qui est pratiquement de l'ordre des musulmans islamophobes. Musulmans, ils sont de nom, islamophobes, ils le sont de discours et d'engagement. Et je crois que nous devons faire très très attention parce que finalement ces gens-là n'aident absolument pas. Ils sont véritablement ceux qui veulent y parvenir, ils ont un agenda politique, un agenda personnel, et ils sont en train de tromper leur monde. Dernière des dimensions, sur lesquels il faut que nous disions un mot, c'est que nous avons des opportunistes, mais nous avons aussi des imposteurs. Et c'est encore beaucoup plus grave que cela. Ce que j'appelle imposteur, justement, c'est un certain nombre de personnes qui, parce qu'ils ont un nom arabe, se permettent de parler d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, comme par exemple l'islam. Ils n'ont aucune connaissance, voire même il y en a qui parlent de l'islam, qui ont un nom arabe et qui sont de tradition chrétienne. Et qui se présentent comme si, comme arabe, je connais forcément l'islam. Ça, ce sont des imposteurs. Ou d'autres, en l'occurrence, qui n'ont absolument, comme je l'ai dit, qui ne veulent pas simplement parvenir, des opportunistes, on peut avoir des opportunistes imposteurs, mais des gens qui disent n'importe quoi, qui peuvent, eux, avoir un double, un triple, un quadruple discours, mais simplement, ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent, et qui disent des choses hors de toute connaissance du sujet sur lequel ils s'appliquent. Et aujourd'hui, cette figure, ce sont eux aussi qui confirment souvent l'image de l'arabe, l'image du musulman, par leur attitude ou par leur présence sur la scène. Et il faut aussi qu'à un moment donné, de la même façon que nous critiquons les gens qui utilisent la violence, de la même façon que nous refusons le terrorisme, de la même façon que nous devons être très critiques en disant il y a une ligne entre ceux qui utilisent la violence au nom de l'islam et qui disent je peux tuer un juif, un chrétien, un américain uniquement parce qu'il est juif, chrétien, américain, on doit condamner cela, de la même façon il faut qu'un jour nous puissions dire de façon extrêmement claire il y a aujourd'hui des gens qui parlent au nom des arabes ou des musulmans qui sont des opportunistes, qui sont des collaborateurs, qui sont des imposteurs et qui sont des personnes qui sont en train de vendre leur religion pour quelques réussites personnelles. De cela aussi, il faut le dire, parce que des deux extrêmes, ceux qui sont tellement dilués qu'ils sont plus blancs que blancs, de ceux qui sont tellement violents qu'ils finissent par être dans la confrontation, des deux côtés, nous sommes dans une logique de trahison. Ce n'est pas par ces deux extrêmes-là que nous réussirons cet engagement. Alors, j'aimerais terminer. Donc, ça, c'est une critique de l'arabe que nous pouvons voir, cette espèce de perception et de présence sur la scène nationale ou internationale, il faut que nous ayons, pour ce qui nous concerne, une attitude critique extrêmement claire, beaucoup plus claire que cela. Aujourd'hui, il nous appartient de mettre en avant ce que nous considérons comme étant la voie légitime. Comprenez bien, la voie légitime n'est pas la voie uniforme. Ce n'est pas parce que nous pensons qu'il y a légitimité qu'il y a uniformisation de la pensée. Il y a diversité d'opinions parmi les musulmanes et les musulmans, il faut le dire et il faut le respecter. Il y a une diversité, mais que ceux qui parlent prouvent qu'ils parlent en connaissance de cause. Ce n'est pas parce que tu as un nom qui vient de là-bas ou, si parce, ou parce que tu es de culture musulmane que tu peux parler sur tout ce qui concerne l'islam. L'islam, comme n'importe quel sujet, a ses spécialistes, à ses références et exige des compétences. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que nous soyons clairs vis-à-vis de nos interlocuteurs. Admettre la diversité, ça ne veut pas dire admettre n'importe quoi. Dans la tradition chrétienne, cela est le cas. Dans la tradition juive, cela est le cas. Dans toutes les traditions philosophiques et religieuses, diverses opinions sont admises, mais avec un certain nombre d'exigences. Et il faut que nous le disions. Et de la même façon, il faut que nous disions aussi à nos interlocuteurs, qu'ils soient de tradition juive, chrétienne, agnostique, athée, qu'ils soient républicains, qu'ils soient engagés politiquement, au bout du compte, vous aurez ce que vous méritez. Si vous continuez à vouloir avoir des interlocuteurs qui, dans un langage un peu argotique, vous servent la soupe et disent ce que vous avez envie d'entendre, vous êtes en train de préparer les conflits et les tranchées de demain. Si vous n'êtes pas prêt à vous décentrer de vos certitudes pour discuter avec la certitude des autres et que vous choisissez des interlocuteurs qui ne disent que ce que vous pensez, vous ne dialoguez pas avec le monde et vous êtes en train, au contraire, d'éviter le clash des civilisations, de le produire. Parce que le clash des civilisations suppose qu'il y a des civilisations et que des civilisations discutent entre elles, que des valeurs entrent en conflit mais positif ou entrent en débat positif, c'est-à-dire qu'on discute véritablement de nos perceptions. Et or aujourd'hui, un certain nombre de nos interlocuteurs ont envie de la paix de leur certitude. Ils veulent entrer en dialogue avec des musulmans qui leur confortent dans leur certitude. Dites-nous que vous avez des problèmes avec la démocratie. Dites-nous qu'il y a un problème avec les femmes. Dites-nous, confortez-nous. Dites-nous que vous avez un problème de civilisation. Dites-nous qu'un jour vous allez faire votre aggiornamento. Dites-nous que vous avez besoin de réforme. Et des musulmans, oui, 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 Nous avons besoin de réformes. Oui, 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 un jour viendra où nous serons civilisés. Oui, 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 nous avons besoin de démocratisation. Oui, 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 nous manquons de rationalisme. Ce type d'attitude-là, qui finalement est une attitude servile, n'est absolument pas ce dont l'Occident a besoin aujourd'hui. Au contraire, ces musulmans de service, ces arabes de service, ce sont ceux qui confortent l'arrogance, ce sont ceux qui confortent les certitudes malsaines. Ils sont les pires ennemis de l'évolution et de l'épanouissement de la civilisation occidentale. Ils la confortent dans son aveuglement. Ils disent parler au nom de la pluralité. Ils ne sont en train que de conforter l'uniformisation, la pensée tellement unique qu'elle n'arrive même pas à se décentrer d'elle-même. Aujourd'hui, ce dont nos sociétés ont besoin, c'est d'un certain nombre de citoyens, forts de leurs convictions, forts de leurs valeurs, qui entrent en dialogue et qui entrent en dialogue, qui imposent à l'autre le décentrage pour réussir à développer une attitude qui soit une vraie attitude de débat. Au contraire de ce que peuvent penser aujourd'hui un certain nombre de nos interlocuteurs, ce sont ceux qui sont dans une attitude spirituelle convaincue, ceux-mêmes qui sont dans la pratique, ceux qui sont dans des dynamiques associatives, qui sont aussi le ferment de la richesse de l'Occident de demain. Non pas les opportunistes, pas les collaborateurs, pas ceux qui sont finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des imposteurs de la tradition de l'autre, mais des gens qui entrent en débat sur les différences et qui posent des vraies questions. Qu'en est-il aujourd'hui de l'éducation pluraliste? Qu'en est-il de la dynamique dans la gestion des différences? Qu'est-ce qu'on va faire dans nos banlieues? Est-ce qu'on va continuer à dire que c'est l'espace de non-droit pour les Arabes ou est-ce que c'est un espace de droit à conquérir pour la citoyenneté de tous les Français, de tous les Européens, de tous les Occidentaux? Est-ce qu'on va changer enfin de lunettes sur l'Arabe et le musulman? Ou est-ce que l'on veut que des Arabes et des musulmans de service? Cet avenir-là, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, il est autant la responsabilité des musulmans, de l'Arabe, qui doit changer, se libérer de l'aliénation, que de ses interlocuteurs. Mais finalement, nous n'aurons que ce que nous mériterons. Loin de la victimisation et de l'agressivité, posons avec calme les vraies questions et exigeons de nous-mêmes, comme de nos interlocuteurs, de savoir se décentrer, regarder l'autre avec ses lunettes et non pas le réduire à nos représentations. Ce qu'il faut donc que nous fassions, et ce sur quoi nous devrions nous engager, c'est essayer de trouver la voie pour sortir de cette situation-là. Alors, on a commencé l'exposé par mettre en évidence justement l'arabe, la perception qu'on en avait, la perception qu'on avait du musulman. À nous aujourd'hui de regarder les réalités en face et de trouver les voies par lesquelles nous allons pouvoir nous libérer de ces situations. La première des choses qu'il faut dire réellement, même si nous refusons la victimisation, même si nous refusons la situation qui serait de se plaindre perpétuellement, il y a un état de fait. Et cet état de fait, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes, musulmanes et musulmans, sont réellement victimes de cette mauvaise représentation, sont victimes de l'état de la société, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de l'emploi, sur le plan des réalités de l'habitation. C'est une réalité concrète, il n'y a pas de ce point de vue-là à vouloir embellir la situation. Elle est grave, elle est extrêmement difficile. Regardons cette réalité en face. Et autant en tant qu'arabe, sur le plan général, quand on doit lutter contre le racisme, qu'en tant que musulman, quand on fait face à l'islamophobie, il faut déterminer aujourd'hui une véritable politique d'engagement qui regarde ces réalités en face et qui les transforme. Parce que rien n'est irréversible en étant convaincu de ses droits, en étant convaincu que l'on doit lutter contre justement ces situations sociales, politiques et de représentation négative, nous avons à nous engager et nous pourrions dire en tout cas dans quatre domaines. Sur un plan plus général, c'est de se réapproprier l'image de soi. C'est autant vrai pour l'arabe que ce l'est pour le musulman. Défendre l'image de sa dignité, c'est le discours, c'est l'engagement quotidien, c'est le fait de ne pas admettre que des gens parlent à notre place. Et de dire à quelqu'un qui parlerait sans légitimité que sa légitimité n'est absolument pas reconnue en la circonstance. Ça veut dire un travail sur le plan du discours. Le véritable travail également, c'est la dire et faire comprendre à tous les États en Europe que toutes ces situations qui sont dans les banlieues, c'est la situation de l'Europe. Ce ne sont pas des sous-sociétés pour sous-citoyens. Ça fait partie de l'État-nation, ça fait partie de l'État de la République, et qu'il faut intégrer une véritable compréhension de ces logiques-là pour développer de nouvelles politiques sociales et de nouvelles politiques urbaines. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est ô combien vrai aux États-Unis, bien sûr. C'est enfin également la participation politique. La participation politique qui ne se suffira pas, il ne faut pas l'admettre, de quotas, simplement pour donner l'impression qu'il faut quelques noms exotiques pour avoir l'impression que notre société est devenue pluraliste. Souvent, les noms exotiques ne sont que des gens qui sont, encore une fois, plus blancs que blancs, tellement opportunistes, tellement désireux d'arriver au sommet, qu'ils ont fini par perdre totalement leurs caractéristiques. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que ceux qui revendiquent leur arabité, pour parler du mauvais français, ou leur islamité, eh bien, le fassent en connaissance de cause et développent des thèmes qui soient, sur le plan politique, de reconnaissance de leurs droits et de leur légitimité à exercer ce droit. Et dernier élément, il faut le dire également, parce qu'on ne le dira jamais assez, renvoyer les journalistes à leurs responsabilités civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces médias qui trop souvent ne parlent de ce qui ne va pas, ou dessinent et renvoient par insistance et par la fréquence de leurs reportages à des images extrêmement négatives et des images déformées, il faut les renvoyer à leurs responsabilités. Il faut également que nous ayons, dans ce cadre-là, des interlocuteurs, voire même des gens qui portent leur identité avec dignité, qui puissent apporter une autre image que l'image dominante. C'est notre responsabilité, c'est cette voie-là du travail qui permettra aux Arabes, à l'Arabe et à la critique de l'Arabe, telle qu'on l'a traduite, comme aux musulmans et à la critique de ces musulmans, de sortir de l'ornière et de pouvoir faire en sorte qu'ils parlent pour eux-mêmes, en leur nom, sans la médiation de quelque illégitime voix ici ou ailleurs.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.